Imaginons un instant l'ouverture d'un manuscrit authentique du Moyen-Âge. Un document vraiment hyper précieux, magnifiquement enluminé par un moine copiste.
Ouais, le genre de trouvaille incroyable.
Exactement. On tourne les pages en parchemin, on admire la calligraphie, et soudain, au beau milieu d'un chapitre, paf, on tombe sur les plans techniques ultra détaillés pour la construction d'un smartphone.
Ah ouais, le choc cognitif absolu, quoi.
Mais totalement. Selon tous les standards d'évaluation historique, c'est un anachronisme complet. Ça fait voler en éclats toute notre compréhension de la chronologie.
C'est clair. Et l'image est frappante, mais elle illustre parfaitement, en fait, le problème des anomalies historiques.
Eh bien, c'est très exactement l'effet que produit la lecture des tout premiers chapitres de l'histoire humaine, selon certains textes antiques.
Tout à fait. Et l'étude des civilisations anciennes, ça exige vraiment de regarder bien au-delà de la surface un peu lisse de nos manuels scolaires.
Ouais, on a tous appris la même chose à l'école.
Voilà, on a tendance à percevoir le développement humain comme une belle ligne droite bien rassurante. Genre l'âge de la pierre, puis le lent apprentissage de l'agriculture, puis le cuivre, le bronze et enfin le fer.
Sauf que la réalité est bien plus chaotique et c'est précisément le cœur de cette exploration en profondeur aujourd'hui. Notre analyse s'appuie sur les notes de cours d'histoire de l'Ancien Testament du professeur Robert Van Voy.
Des notes vraiment fascinantes d'ailleurs.
Absolument. On va se concentrer sur une section bien précise, à savoir les chapitres 4 et 5 de la Genèse. La mission ici, pour notre analyse, c'est d'examiner un paradoxe monumental.
La mention d'une technologie étonnamment avancée avant même le déluge, c'est ça.
C'est ça, ce qu'on appelle la technologie antédiluvienne. Il y a un choc frontal entre ce récit vieux de plusieurs millénaires et la chronologie scientifique moderne. Ça soulève des questions philosophiques majeures sur la technologie et la culture.
Des questions qui sont toujours hyper pertinentes aujourd'hui.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Dès les premiers versets du chapitre 4, la toute première génération décrite ne ressemble, mais alors en rien, à l'idée qu'on se fait des hommes préhistoriques.
Non, c'est sûr. La vision anthropologique standard pose comme principe que les premiers humains étaient exclusivement des chasseurs-cueilleurs.
Ils dépendaient d'une économie de subsistance immédiate, quoi.
Exactement. Le saut vers l'agriculture et la domestication, ce qu'on appelle la révolution néolithique, s'est supposé avoir pris des dizaines de milliers d'années.
Un processus super lent.
Très lent, oui. Or, le texte de la Genèse bouscule complètement cette échelle de temps dès la première génération après Adam.
Bah oui, parce qu'on y lit qu'Abel est présenté comme un berger.
Et le terme berger, ça implique la maîtrise complexe de la domestication animale, de la reproduction sélective, de la gestion des pâturages. C'est pas rien.
Et Caïn, de son côté, il est cultivateur, ce qui suggère qu'il comprend les cycles saisonniers, le travail de la terre et même une sédentarisation au moins partielle.
C'est déjà énorme par rapport à la chronologie classique.
Et le pire, c'est que le texte ne s'arrête pas à une simple petite ferme familiale. L'accélération technologique dans la descendance de Caïn, elle est juste fulgurante.
Ouais, on passe à la vitesse supérieure.
Enoch construit une ville. Et le simple fait d'utiliser le concept de ville, ça implique une stratification sociale.
Bien sûr, il faut gérer les ressources en eau, construire des structures défensives, bref. Un établissement permanent hyper complexe.
Et après, on voit apparaître Jubal. Lui, il invente les instruments à cordes et à vent, comme la harpe et la flûte. On parle d'art, de musique, de culture abstraite.
Et ça ne s'arrête pas là. Il y a Tubal-Caïn qui est carrément présenté comme un instructeur dans le travail du bronze et du fer.
La métallurgie lourde, quoi. Comment la science moderne date-t-elle habituellement l'apparition de ces innovations?
Alors là, le décalage est gigantesque. Pour contextualiser un peu pour ceux qui nous écoutent, l'archéologie traditionnelle situe l'apparition des premiers véritables villages sédentaires autour de 5000 avant notre ère.
5000, ok. Et pour les métaux?
L'âge du cuivre et du bronze émerge vers 3000 avant notre ère. Quant à la maîtrise du fer, c'est une technologie extrêmement complexe.
Parce qu'il faut chauffer beaucoup plus fort, c'est ça?
Exactement. Ça nécessite des températures de fusion beaucoup plus élevées que le bronze, autour de 1500 degrés Celsius. Du coup, l'âge du fer n'est généralement fixé qu'autour de 1200 avant notre ère, au Moyen-Orient.
Ah ouais, donc 1200 avant notre ère. Pour bien comprendre l'impact d'une telle technologie à l'époque, il faut se pencher sur ses conséquences militaires et sociales.
C'est un bouleversement total.
Je repense à l'histoire du conflit entre les Israélites et les Philistins, entre 1200 et 1000 avant notre ère. C'est vraiment un cas d'école.
Absolument. Les Philistins dominaient même militairement cette région, précisément parce qu'ils détenaient un monopole strict sur la métallurgie du fer.
Ils avaient un avantage technologique fou.
Il possédait des chars armés de fer et des épées capables de briser littéralement les armes en bronze de leurs adversaires.
Ah, ça cassait les épées en bronze.
Oui, le fer est beaucoup plus résistant. D'ailleurs, les Israélites devaient même descendre chez les forgerons philistins pour faire aiguiser leurs outils agricoles.
Pour être sûr qu'ils ne forgent pas d'armes en secret, en fait.
C'est exactement ça. Le fer, c'est pas juste un métal plus solide. C'est un véritable levier de domination absolue.
Or, le récit de la Genèse place l'invention de cette métallurgie stratégique des millénaires plus tôt, dans un monde antédiluvien.
Ce qui pose un énorme problème de datation.
Du coup, je me dois de jouer l'avocat du diable ici. Parce que, méthodologiquement parlant, c'est un terrain super glissant.
Je vois où tu veux en venir.
N'est-ce pas une pirouette un peu trop commode d'invoquer une sorte de civilisation perdue avant le déluge? Genre, affirmer qu'une technologie avancée existait, mais qu'un cataclysme a opportunément effacé toutes les preuves?
C'est une objection tout à fait valide.
Parce que dire que l'humanité a dû tout réapprendre lentement, ça ressemble un peu à un biais de confirmation. On pourrait utiliser cet argument de la preuve manquante pour valider n'importe quel mythe antique, même le plus farfelu, non?
Oui, et cette objection est cruciale pour maintenir une vraie rigueur intellectuelle. Il ne s'agit pas du tout de croire aveuglément sans preuve matérielle, mais ce qui est fascinant ici, c'est la nature intrinsèquement fragmentaire de l'archéologie elle-même.
C'est-à-dire ?
On ne trouve pas tout.
Loin de là. L'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Les commentaires de chercheurs comme Stiggers et Ace, qui sont mentionnés dans les notes de Vanois, mettent en lumière des artefacts qui viennent briser la rigidité de ces frises chronologiques.
Ah, donc on a des trouvailles qui dérangent un peu l'histoire officielle.
Totalement. Prenons le poignard en fer découvert dans une tombe royale en Anatolie. Il est daté entre 2400 et 2200 avant notre ère.
Attends, c'est un millénaire avant l'âge du fer officiel, ça?
Exactement. Un millénaire avant.
Et dans l'analyse, les sources mentionnent aussi des perles en fer trouvées en Égypte, je crois.
Oui, des perles de fer issues de sépultures de l'Égypte prédynastique. Et celles-là, elles sont datées entre 4000 et 3200 avant notre ère. 4000 avant notre ère. Mais c'est vertigineux.
C'est fou, hein? Alors, bien sûr, il faut préciser qu'une grande partie de ce fer précoce était d'origine météorique.
Du fer tombé du ciel.
Voilà, il était martelé à froid plutôt que fondu dans de hauts fourneaux. À l'époque, il était traité comme un joyau rare, plus précieux que l'or même.
D'accord, mais même si ce n'est pas de la sidérurgie industrielle, ça prouve qu'une connaissance et une utilisation du fer existaient des milliers d'années avant l'adoption officielle de ce métal.
C'est indéniable. Même sous une forme rudimentaire ou très localisée, le métal était là.
Pour vulgariser un peu ce concept de perte technologique, pensons à une infrastructure informatique moderne.
Vas-y, je t'écoute.
Un événement cataclysmique comme un déluge global, en fait, c'est l'équivalent d'un effacement complet des serveurs mondiaux et d'une destruction totale du matériel. Le hardware, quoi.
Très bonne image. Tout disparaît physiquement.
C'est ça, les usines, les hauts fourneaux, les villes, tout est détruit. Les quelques survivants qui émergent de ce cataclysme possèdent encore la connaissance intellectuelle.
Le software, dans ton analogie.
Exactement, le software. Mais ils n'ont plus du tout l'infrastructure pour l'appliquer. Leur mémoire transmise oralement, ça devient une sorte de clé USB super fragile.
Et sans l'ordinateur pour lire la clé, la connaissance est là, mais inutilisable à grande échelle.
Voilà. Il leur faudra des générations pour reconstruire l'infrastructure capable de refaire tourner ce logiciel. Donc, l'absence de hauts fourneaux dans les strates archéologiques post-cataclysme ne prouve pas que la métallurgie était inconnue avant.
Ça prouve simplement que l'infrastructure a été réinitialisée à zéro.
Exactement.
Le parallèle avec l'infrastructure informatique, il illustre vraiment très bien la vulnérabilité du progrès matériel. L'archéologie ne déterre que ce qui a miraculeusement survécu à la désintégration, à l'érosion et au bouleversement géologique.
Ce qui fait au final très peu de choses.
Très peu. C'est pourquoi repousser les dates d'invention humaine, c'est une constante dans cette discipline. Déclarer qu'une mention textuelle ancienne est impossible, ça relève d'une certitude que la Terre elle-même vient régulièrement contredire, à chaque nouveau coup de pelle.
C'est joliment dit. Mais du coup, une fois que l'on admet que cette chronologie technologique précoce ne peut pas être balayée d'un revers de main, bah la dynamique de notre analyse change du tout au tout.
Tout le paradigme évolue, oui.
La question centrale devient... Pourquoi ce texte spécifique insiste-t-il autant sur ces inventions? À quoi ça sert de dresser ce catalogue d'innovations?
Et c'est une excellente question littéraire et théologique.
Et c'est là qu'on découvre la fracture morale de l'humanité primitive. Le texte sépare vraiment le monde en deux trajectoires très nettes.
Oui, il faut d'abord se rappeler le contexte familial, si je puis dire. L'humanité est divisée.
Entre qui et qui, du coup?
D'un côté, on a la descendance de Caïn, le meurtrier de son frère Abel, et de l'autre, la descendance de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, qui remplace Abel.
D'accord.
Le récit attribue un véritable monopole des avancées culturelles à la lignée de Caïn. L'urbanisation, l'industrie musicale, la métallurgie lourde, tout ça, ça naît chez les descendants de Caïn.
C'est eux les innovateurs, en gros.
C'est ça. Mais cette accumulation de savoir-faire, elle s'accompagne d'une mutation psychologique très sombre.
Ah bon ? De quel genre ?
La maîtrise de l'environnement matériel engendre un esprit d'autosuffisance totale. L'humain ne se voit plus du tout comme un gestionnaire de la création, mais comme son maître absolu, totalement affranchi de toute loi morale.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le point de rupture, l'incarnation parfaite de cette dérive, c'est le personnage de Lémec.
Lémec, un descendant direct de Caïn.
Tubal Caïn invente la forge du fer et du bronze. Et que fait les mecs avec ça?
Il s'en empare pour imposer la terreur, tout simplement. C'est l'utilisation militaire immédiate de la technologie.
Le texte rapporte ce qu'on pourrait appeler le chant de l'épée. C'est un poème assez glaçant où les mecs se vantent d'avoir tué un jeune homme juste pour une blessure.
Une réaction complètement disproportionnée.
Il décrète que si Caïn devait être vengé 7 fois, lui, les mecs, sera vengé 77 fois. La mécanique est effrayante quand on y pense.
Ah oui, l'escalade de la violence est fulgurante.
La possession d'une arme en fer, dans un monde qui se bat probablement à main nue ou avec de simples pierres, ça crée un tyran instantané.
C'est le déséquilibre total des forces.
La technologie abolit toute proportionnalité dans la justice. L'arme ne lui sert plus à se défendre. Elle agit vraiment comme un amplificateur massif de son arrogance.
C'est tout à fait ça. La supériorité technologique donne à les mecs l'illusion de la divinité.
Il se prend pour un dieu intouchable.
Il se substitue à toute autorité supérieure pour édicter sa propre loi martiale. Et ce franchissement des limites moraux, il ne s'arrête pas à la violence pure.
Non, d'ailleurs, le texte mentionne autre chose le concernant.
Oui, Lémec est aussi le premier être humain mentionné dans les textes à instaurer la polygamie. Il prend deux femmes, Ada et Tsila.
Ce qui va à l'encontre du modèle initial.
Exactement. C'est une rébellion ouverte contre l'idéal monogame décrit dans les chapitres précédents de la Genèse. L'innovation technologique de sa lignée ne l'a absolument pas élevé moralement.
Ça lui a juste donné les moyens de ses ambitions démesurées.
Ça lui a simplement fourni les outils pour écraser les structures existantes et assouvir ses désirs de domination.
Et pendant ce temps-là, que fait la lignée de Seth ? Parce que le contraste est presque déroutant. La famille de Seth semble complètement absente de cette espèce de course au progrès.
C'est vrai, la généalogie de Seth est rédigée avec une intention diamétralement opposée. Le récit ne mentionne aucune invention révolutionnaire chez eux.
Pas de métaux, pas de musique, pas de grande ville.
Aucune ville fortifiée, aucune symphonie naissante. Les notes de Vanhoy soulignent bien que l'objectif de cette généalogie, ce n'est pas de fournir un calendrier exhaustif ou de lister les réussites humaines.
Mais alors quel est le but de cette liste de noms ?
C'est de tracer la ligne de ce que les théologiens appellent l'histoire rédemptrice.
Attends, faisons une petite pause là-dessus. L'expression « histoire rédemptrice », c'est un concept théologique assez technique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, sur le terrain, par rapport à l'histoire classique telle qu'on l'étudie à l'école ?
Alors, l'histoire classique, elle s'intéresse aux dates, aux grandes batailles, aux changements de régime politique et aux sauts technologiques.
L'histoire des vainqueurs et des inventions, en somme.
Voilà. L'histoire rédemptrice, en revanche, dans le contexte biblique, c'est la narration d'un sauvetage.
Un sauvetage moral.
C'est le fil rouge qui retrace comment, au milieu d'une humanité qui s'autodétruit par sa propre corruption, une lignée très spécifique préserve une relation spirituelle et éthique avec le divin.
Ah, je vois, le but n'est pas matériel.
Pour l'auteur de la Genèse, le fait que la lignée de Seth n'ait pas inventé la flûte ou l'épée en fer n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'ils ont préservé l'intégrité morale.
Ils reconnaissent une autorité transcendante.
C'est ça. Ils deviennent ainsi les porteurs de la promesse de restauration de l'humanité qui va culminer un peu plus tard avec le personnage de Noé.
Cette mise en opposition entre l'arrogance armée de la lignée de Caïn et la préservation morale de la lignée de Seth, ça ne se limite pas à des personnages en sandales d'il y a plusieurs millénaires.
Ah non, c'est d'une actualité brûlante.
C'est une grille d'analyse d'une pertinence frappante pour notre époque moderne. Chaque fois que l'humanité fait un bond en avant technologique, elle se retrouve face au syndrome de Lémec.
L'outil devient une tentation de puissance.
Comment doit-on se positionner face à ce progrès matériel écrasant ? Faut-il rejeter la technologie par peur de la corruption ou y a-t-il une autre voie ?
Pour répondre à ce dilemme, les sources de notre exploration mobilisent un essai fondamental. Il a été publié par Jane Gresham Machen et s'intitule « The Christianity and Culture ».
Le christianisme et la culture.
Machen y analyse la tension perpétuelle entre la foi, la spiritualité et le développement de la culture humaine, ce qui englobe bien sûr la science, l'art et la technologie.
Et il en déduit quoi ?
Il identifie trois grandes attitudes historiques face à ce choc. La première attitude, c'est la subordination.
La subordination. Ça implique que l'un des deux domine l'autre. Dans ce modèle, comment la religion et la culture interagissent-elles du coup ?
Dans le modèle de la subordination, la dimension spirituelle est considérée comme un simple sous-produit de l'évolution culturelle.
Donc c'est la culture qui dicte les règles.
Exactement. La théologie doit constamment s'adapter, se plier et se réécrire pour correspondre aux toutes dernières modes intellectuelles ou scientifiques.
Et j'imagine que Machen n'est pas fan de cette approche.
Il la rejette très fermement. Il estime que si la spiritualité n'est qu'un caméléon culturel, elle perd absolument toute sa capacité à offrir une critique morale transcendante.
Ça devient juste un club social.
Oui, un club qui valide en permanence les actions de la société, incapable de dire non à un futur Lémec.
Et la deuxième attitude évoquée par Machen, c'est le retrait. Historiquement, c'est une réaction très compréhensible.
La fameuse fuite en avant.
Face à un monde où la technologie crée des armes de destruction massive ou des outils de surveillance terrifiants, la tentation est de fuir. C'est le réflexe de l'isolationnisme, quoi.
On construit un mur, on s'enferme.
S'isoler dans des communautés recluses, refuser en bloc la modernité, sous prétexte que le fer et le bronze de Tubal Cain sont maudits par essence.
C'est exactement le raisonnement de nombreux mouvements séparatistes à travers l'histoire, d'ailleurs. Mais Machen rejette aussi cette approche du retrait.
Ah bon ? Pourquoi ? Ce serait plus sûr pourtant.
Parce que s'isoler du monde matériel, c'est abandonner le champ de bataille intellectuel et culturel.
On laisse le terrain libre en fait.
C'est laisser le monopole de la science et de l'art à ceux qui partagent la philosophie destructrice de Lémec. Pour Machen, c'est une abdication de la responsabilité humaine de gérer la création.
Donc, ni soumission, ni fuite.
C'est pourquoi Machen milite ardemment pour une troisième voie, qu'il appelle la consécration.
Si l'on relie cela à la vision d'ensemble du récit de la Genèse et à notre métaphore de l'infrastructure informatique de tout à l'heure, la consécration, ce n'est pas de casser les serveurs ou de jeter les ordinateurs.
Surtout pas.
C'est plutôt de s'assurer que le logiciel moral qui tourne dessus est bon. La consécration postule que le métal extrait de la terre, les notes de musique, ou aujourd'hui les algorithmes et l'ingénierie génétique, sont neutres.
Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, le concept est précisément là. La technologie est amorale par nature.
Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi.
C'est l'intention du cœur humain qui la transforme en instrument de vie ou en instrument de mort.
L'approche de la consécration demande un engagement total dans les sciences, l'éducation et les arts.
Mais pas pour la gloire personnelle. Non, pas pour la glorification de l'ego humain, mais pour soumettre ces formidables outils à une finalité supérieure.
Donc, soigner au lieu de tuer.
Il s'agit d'utiliser l'ingénierie pour guérir, bâtir et élever la société plutôt que pour dominer ou asservir son prochain. C'est la résolution philosophique aux problèmes posés par le chapitre 4 de la Genèse.
C'est une belle conclusion intellectuelle.
Le progrès matériel n'est pas condamné par le texte. C'est l'idolâtrie de ce progrès, l'arrogance qu'il suscite, qui l'est.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la société actuelle, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle générative et de la manipulation de l'ADN ?
Les enjeux sont massifs.
Pourquoi cette plongée dans des textes si anciens est-elle vitale ?
Parce que les enjeux n'ont pas varié d'un iota. À chaque nouvelle percée scientifique, l'humanité a le choix. C'est la croisée des chemins à chaque invention.
Soit elle embrasse le modèle de Lémec, où la puissance de l'outil justifie l'effacement de l'éthique, menant à une course aux armements sans fin et à l'arrogance la plus totale.
Ce qui mène généralement à la destruction.
Soit elle opte pour la consécration. Maîtriser les outils les plus complexes, oui, mais tout en les soumettant à une boussole morale rigoureuse. La survie de notre culture ne dépend pas de la puissance de nos microprocesseurs.
Elle dépend de notre rapport à eux.
Elle dépend de notre refus d'être asservi par notre propre ingéniosité.
En synthétisant l'ensemble de notre parcours aujourd'hui, depuis l'anomalie troublante des perles de fer égyptiennes jusqu'au champ de guerre antédiluvien.
Un sacré voyage.
Oui, pour aboutir à l'éthique de la culture de Machen. On réalise que l'histoire ne se résume vraiment pas à une simple accumulation de brevets techniques. L'étude de nos origines nous tend un miroir.
Et le reflet n'est pas toujours très flatteur.
Les débats sur l'archéologie fragmentaire nous rappellent l'immense fragilité de nos connaissances, tandis que le récit des premières civilisations nous alerte sur la constante vulnérabilité de notre éthique face au pouvoir des outils que nous forgeons.
Une fragilité d'autant plus vertigineuse quand on se projette dans le temps. Pour clore cette exploration en profondeur sur une réflexion qui prolonge l'analyse de cette archéologie lacunaire et de notre rapport aux objets.
Je sens la question vertigineuse arriver.
Il est fascinant de se demander ceci. Si notre civilisation actuelle devait subitement disparaître engloutie par un cataclysme planétaire détruisant toutes nos infrastructures numériques et métalliques...
Le fameux reset de notre hardware dont on parlait.
Exactement. Et que, dans 50 000 ans, des archéologues d'une nouvelle humanité n'ont retrouvé dans les strates sédimentaires qu'un unique objet banal.
Genre un truc du quotidien ?
Peut-être un simple gobelet en plastique coloré ou un bête manche de brosse à dents. On peut se demander à quel point leurs théories se tromperaient radicalement sur l'étendue de nos accomplissements scientifiques, de nos dilemmes philosophiques et de notre poésie, à partir de ce seul fragment dérisoire.
C'est un exercice de pensée formidable.
Tout comme on peut se tromper et sous-estimer lourdement le monde antédiluvien.
C'est un rappel nécessaire à l'humilité. L'histoire garde jalousement ses silences, et notre compréhension restera toujours, d'une certaine manière, suspendue à ce que la Terre veut bien nous rendre.
La véritable sagesse commence peut-être là, accepter l'incertitude du passé pour mieux choisir la finalité de notre propre avenir.